Première chronique de ce soir, mon cher Fitz, tu passes en premier cette fois. Toujours en rapport avec... donc on rappelle que toi, tu es dédié au lore, l'histoire poussée, on va dire, des jeux vidéo. Hein. Tu nous avais fait une autre fois un petit point sur les débuts de la saga Elder Scrolls. Hein, Elder Scrolls qui regroupe Morrowind, Oblivion, Skyrim, enfin plein de jeux. C'est le nom de la saga globale. Mais là, tu vas t'intéresser plus précisément à l'un d'entre eux. Duquel vas-tu nous parler ?
Alors, il faut savoir que déjà, à la base, je n'avais pas prévu de parler de cette saga ou de ce jeu.
Tu reviens toujours dessus ?
Non, mais en fait, le truc, c'est que je voulais changer un peu, partir sur autre chose. J'avais pensé à du Mass Effect ou du Final Fantasy IX. Et puis, on ne va pas se mentir, la semaine dernière, c'était les 10 ans de Skyrim. Je me suis dit... comment rendre un meilleur hommage
la semaine du 8 novembre 2021, je pense aux gens qui écoutent la chronique dans 50 ans, quand tout sera éteint.
Donc voilà, c'était
il y a une actu Elder Scrolls.
Oui.
Et tu te reposes dessus.
Du coup, je me suis dit, on va parler de ça. Ça me semble le meilleur moment. Du coup, petite chronique sur The Elder Scrolls V Skyrim, qui est actuellement mon deuxième jeu préféré après Final Fantasy IX.
Oui.
Donc Skyrim qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, sortez de votre grotte, le cinquième opus de la série Elder Scrolls, donc après Arena, Daggerfall, Morrowind et Oblivion. Le jeu est sorti donc en 2011, d'où l'anniversaire des 10 ans la semaine dernière. Évidemment, comme ses deux prédécesseurs, Morrowind et Oblivion, il a été élu jeu de l'année. Il faut savoir juste, alors je suis allé chercher un petit peu de trois chiffres parce que j'ai trouvé ça assez impressionnant. La première semaine, rien que sur Steam, donc juste sur cette plateforme-là, non, le premier jour, il y a eu 230 000 personnes recensées jouant en même temps à Skyrim. Voilà, le premier jour.
Uniquement.
Monde ?
Ça fait du people.
Oh, le premier jour. En une semaine, ils avaient écoulé 10 millions de copies et les derniers chiffres qu'on a remontent à 2016, donc juste avant la sortie de la spéciale édition, où on recensait 30 millions de ventes à travers le monde. Ce qui n'est pas déconnant, voilà, on va pas se mentir. Du coup, voilà pour les chiffres, j'avais envie de commencer fort avec un petit truc un peu coup de poing. Donc je vais vous parler un petit peu plus de l'histoire de Skyrim. Je vais essayer de rusher un peu parce que j'ai beaucoup de contenu. Je vais essayer d'arriver au bout. Donc on va commencer avec la trame principale. Donc pour bien comprendre ce qui se passe dans Skyrim en fait, parce que je vais pas juste vous dire vous êtes le Dovahkiin et puis vous allez tuer un dragon. Trop facile. Il faut remonter un petit peu au début du Kalpa. J'explique le terme Kalpa, c'est simplement ce que les Nordiques utilisent pour définir la boucle du temps. Il faut savoir que pour les Nordiques, la boucle du temps commence avec la création du monde par Alduin, que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Alduin, c'est genre le big boss. Hein, c'est
un gros dragon.
Voilà, pour ceux qui l'ont vu dans Skyrim, il est très 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 en dessous dans le jeu que ce qu'il est par rapport à la vraie histoire. Donc voilà, il crée le monde et il est censé le détruire à la fin du Kalpa, qui est évidemment le début du Kalpa suivant. Sauf que dans le Kalpa actuel de Skyrim, Alduin ne s'est pas endormi jusqu'à la fin du Kalpa pour dévorer le monde. Les Nordiques ont créé un culte autour du dragon et notamment autour d'Alduin, et ont commencé à le vénérer. Donc Alduin a été un peu, je pense, peut-être un peu grisé par cette adoration, et s'est comporté en dieu, littéralement. Hein. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu parti en cacahuète, et que du coup, ça a enclenché une guerre draconique.
C'est pas un dieu, à proprement parler, c'est un simple dragon.
C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué.
En fait, ça, c'est le maître mot de Elder Scrolls. Voilà. C'est un peu, c'est pas ta gueule, c'est magique, c'est compliqué.
Non, mais le truc, en fait, c'est que il y a beaucoup de gens qui estiment que Alduin et Akatosh, donc le dieu créateur en soi, sont la même entité. Ce qui, techniquement, est une connerie, puisque Alduin est le premier-né d'Akatosh. Donc, on peut pas être son propre père. Hein. C'est impossible. Alors, oui. Mais Alduin est une divinité. Alduin est supérieur aux autres dragons. parce qu'Alduin a la possibilité de voyager à travers les dimensions. Donc on en avait un peu parlé la dernière fois, l'Oblivion, le monde mortel, le monde supérieur des dieux, etc. Donc oui, Alduin est un dieu, effectivement. Parce qu'il est le dieu créateur, selon les Nordiques, en tout cas, il est le dieu créateur et le dieu destructeur. Et le truc, c'est que voilà, bah, du coup, ce culte, en quelque sorte, a fait que Alduin a un peu pété un câble et qu'il sera, à la fin de la guerre draconique, non pas vaincu par les Nordiques, parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir, mais banni, en fait, dans le temps, grâce à un parchemin des anciens. D'où le nom du jeu, hein, Elder Scrolls.
Ah oui, le parchemin des anciens. Elder, c'est les vieux. Enfin, les anciens. Et Scrolls, c'est le parchemin.
L'eau, c'est un elder.
Non, pas encore.
C'est pas encore un parchemin.
Et le truc, en fait, c'est que du coup, en ayant banni Alduin dans le temps, ces héros nordiques ont créé cette fameuse prophétie que beaucoup d'entre vous ont dû voir quand vous lancez le jeu Skyrim pour la première fois. Vous avez votre écran noir avec Alduin sur son mur et votre niveau 1 affiché. Et ce texte donc, qui dit « Et les parchemins des anciens ont prédit la venue des ailes noires dans le froid. Quand la guerre sera de nouveau déclarée, Alduin, fléau des rois, ancien ombre libéré, dont la faim dévorante pourrait le monde avaler. » Donc voilà, ça c'est la prophétie d'Alduin.
Chant de l'enfant dragon.
Oui, alors non. Les mecs ont pété un câble. Je pense que c'est la traduction qui est pourrie parce que dans la chanson de Dovahkiin, c'est pas ça. Parce que vous l'entendez chanter dans les tavernes dans Skyrim, hein, le chant de l'enfant de dragon. Alors peut-être que c'est ce qu'ils disent dans la version draconique. Peut-être, je sais pas. C'est peut-être la traduction qui a merdé. Donc pas très important. Et donc le jeu commence, comme vous avez pu le voir si vous y avez joué. Si vous n'y avez pas joué, allez-y.
Achetez la dernière version en date, la version anniversary.
Ah, oui, pour le coup, achetez-la.
Si vous n'avez jamais joué et que c'est votre premier, oui.
Absolument, absolument. Mais donc, vous arrivez simplement en bord de ciel. Suivant la race que vous choisissez, il y aura une explication plus ou moins cohérente de pourquoi vous êtes là. Et vous allez être plongé dans cet univers, en fait. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous devez tuer des dragons qui sont de retour à la vie, on ne sait pas trop comment. Et il faudra les détruire pour évidemment éviter qu'ils foutent un peu trop le brin dans bord de ciel. Et vous vous rendez compte par la suite qu'effectivement, c'est Alduin qui les ressuscite. Donc voilà, ça c'est plus ou moins pour l'histoire de Skyrim. Et j'aimerais juste qu'on parle vite fait de la fin d'Alduin, parce qu'il faut bien se douter que si l'antagoniste principal de Skyrim c'est Alduin, vous allez devoir l'affronter et le battre à un moment ou à un autre. Donc ça c'est un fichier vidéo, je sais pas si tu peux le jouer.
Si, je le lance.
Donc pour ceux qui écoutent, hein, c'est le moment du jeu dans Skyrim. Donc si vous voulez, si vous avez jamais fait le jeu, vous ne loupez rien en audio.
La version d'Alduin qui est dans le jeu, dont tu disais qu'elle était très inférieure
en
vrai.
Elle est un peu en dessous. Elle est un peu en dessous. Il y a des modes. Encore une fois, il y a des modes pour le rendre plus vénère, plus dangereux, avec des cris différents, avec plus de points de vie, etc. Mais je vous rends attentif à ce qui se passe maintenant. Donc vous voyez l'âme des dragons que vous absorbez au fur et à mesure du jeu, en fait, là, l'âme d'Alduin s'en va vers le ciel. Alors, deux choses par rapport à ça. Premièrement, les gens se disent « Ouais, Alduin a été vaincu. » Non, Alduin ne peut pas être vaincu. C'est littéralement impossible. Il personnalise le dieu du temps. C'est-à-dire que si Alduin est vaincu, le temps n'a jamais existé. Donc, c'est impossible. Et le fait que son âme monte vers les cieux plutôt que d'être absorbée par le Dovahkiin prouve qu'effectivement, il n'a pas été vaincu, mais repoussé. Voilà, donc ça, c'est une théorie que je trouve très intéressante et complètement cohérente. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre théorie possible. Et au-delà de ça, vous voyez que quand il meurt, il pousse un cri. Il dit « Zu unslad, zu nis oblan ». Donc je me suis amusé à traduire cette
phrase. Je veux dire « Bon appétit ».
Tout à fait. Non, ça veut dire...
Bande de petits cons, je me barre. Non, pas ça.
Ça veut dire « je suis infini, je ne peux être vaincu ». On ne peut pas faire plus clair, en fait.
Effectivement.
On ne peut pas faire plus clair. Donc ça, c'est la fin de la trame principale de Skyrim. Suite à quoi on a vu sur nos écrans arriver Dawnguard, la première extension, avec, avec les vampires, donc la lumière de l'aube. Un orc assez, assez stylé va, va vous interpeller dans une ville et vous dire ouais, si vous voulez tuer des vampires, venez à, au fort de l'aube, machin, etc. Donc vous allez le rejoindre évidemment et vous avez le choix en fait par la suite de side avec les vampires ou avec la garde de l'aube. Malheureusement, la finalité reste la même. Et on va se rendre compte en fait que bah, effectivement, il va falloir combattre des vampires pour mettre fin à ce qu'on appelle la tyrannie du soleil, qui est une autre prophétie dans un autre parchemin des anciens. Tout ça organisé par le clan Volkiar, qui sont des vampires extrêmement puissants qu'on retrouve en bord de ciel. Qu'on retrouve uniquement en bord de ciel, en plus de ça. Et il y a tout un, il y a tout un chemin qui va vous amener d'une part jusqu'à ce château des Volkiar, et d'autre part jusqu'à la toute fin de l'extension qui se trouve dans le temple d'Auriel. Donc le temple d'Auriel qui est le dieu fondateur des elfes, et qui va en fait... Un des seuls survivants Falmer, pas les trucs dégueux qu'on voit dans Skyrim, hein, les vrais Falmer, qui va vous expliquer qu'en fait, bah, son frère a été atteint de vampirisme et manipule toute personne arrivant ici pour protéger en fait cet endroit. Il faut savoir que le boss de ce jeu, c'est pas le vampire qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est effectivement ce haut elfe. Et lui, son objectif, en fait, c'est de foutre le bordel avec le soleil. Mais pour ça, il a besoin, effectivement, du parchemin qui est en possession du PNJ qui vous accompagne. Donc, une vampire. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout expliquer parce que la finalité de ce...
Oh, tu fais bien.
Non, non, mais la finalité par de l'extension contre, est vraiment très intéressante.
Ce que je comprends, c'est que l'extension est intéressante et importante et ouais. Que tu conseilles de la faire.
Ah oui, 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 clairement. Parce que c'est, pour moi, c'est la meilleure...
Donc, c'est Dawnguard, il y en a plusieurs.
Il y a eu trois extensions, dont une qui n'est pas vraiment histoire, c'est plus du contenu additionnel. Mais des trois, donc quête principale et les deux extensions, pour moi, la trame principale, c'est celle-ci la plus intéressante, de loin. De très loin.
Dawnguard, ok.
Ouais. Et la deuxième extension à histoire, parce qu'il y a eu Earthfire entre deux, mais c'était plus, on va dire, un gros mode vendu par Bethesda pour faire des maisons. La dernière extension, c'est Dragonborn, l'enfant de dragon. Mm-hmm. Donc là, sur laquelle sur la magnifique image où vous voyez Mirak, l'antagoniste principal. En gros, vous vous faites attaquer par des adeptes, des mecs qui sont à la botte de ce bonhomme, et vous vous rendez compte en fait que tout se passe sur l'île de Solstheim, qui est une sorte de petit îlot entre Bord de Ciel et Morrowind. Et qu'apparemment il se passe des trucs un peu chelous avec un certain Mirak. Donc vous allez vous rendre en fait sur cette île et vous allez entrer en relation avec Mirak qui se prétend être le premier enfant de dragon. Et du coup vous vous rendez compte qu'il y a tout un délire avec Hermaeus Mora qui est le dédra de la connaissance dont Mirak serait le champion apparemment.
Apparemment c'est ce truc Hermaeus. Hermaeus, voilà, comment tu l'appelles hein?
Hermaeus Mora, il s'appelle Herma Mora, le dieu de la forêt. Enfin, il a plein de noms. C'est un cauchemar de Loli, hein, concrètement. C'est des tentacules avec des yeux. Hein, voilà.
Il a sa place c'est très bien résumé.
Ça doit être chiant de se faire une beauté le matin hein, quand tu ressembles à ça.
Ah ouais, non, le mec,
un bordel.
Il en a pour la semaine, hein, c'est fini. Mais voilà, en gros, vous allez suivre les conseils d'Hermaeus Mora pour affronter Mirak au sommet d'Apocrypha, qui est le domaine. D'Oblivion d'Hermaeus Mora. Encore une fois, une chouette histoire. Une histoire. Voilà, donc là, on voit une image d'Apocrypha.
C'est très accueillant.
Pour les vacances,
ça donne envie. Hein.
C'est les enfers tout en vert.
Il faut savoir que tout le sol d'Apocrypha est recouvert d'une espèce de liquide acide qui vous mange littéralement la peau si vous essayez d'aller à l'intérieur.
C'est un soin au. Voilà, à la
peau. Ouais, c'est le spa qui pue, quoi.
C'est exactement, je cherchais.
Et les... au-delà de ça, quand vous vous approchez de cette flotte, il y a des tentacules qui viennent pour vous
c'est
mettre...
C'est ça, les machins qu'on voit dans le ciel, les tentacules, là. Ça,
les tentacules, de l'acide, bah voilà.
Les yeux, non, c'est formidable. Franchement,
bonnes vacances, quoi. Bah, la Terre, dans 50 ans, selon Fitz. On y revient toujours.
Ouais, on est sur quelque chose de... Voilà, non. Les vacances, moi, je dis, c'est parfait. Et du coup, voilà, donc, une extension qui, pour moi, est plutôt intéressante... même si on est clairement en dessous de Downguard pour moi. Par contre, ça ajoute effectivement toute la partie Solstheim, donc qui est une île, on va dire, qui fait peut-être allez, un bon tiers de bord de ciel, donc ça rajoute quand même pas mal de contenu, même si, voilà, pour moi, l'histoire est quand même en dessous. Là où Downguard n'ajoutait pas de zone particulière, à part le Cairn de l'âme, mais bon, là, vous avez fait le tour en une heure, c'est pas intéressant. Et voilà, donc, pour moi, voilà, deux extensions qui sont assez intéressantes d'un point de vue lore, qui méritent qu'on les fasse. C'est vraiment chouette. Et j'aimerais juste terminer cette chronique sur un petit point géopolitique par rapport à Skyrim, parce que pour moi, c'est ça le véritable intérêt de Skyrim, plus que les dragons qui détruisent le monde. Ça, c'est plutôt classique. Il faut savoir que y a tout un bordel dans Skyrim quand vous arrivez. Donc il faut savoir déjà que l'Empire Septime est tombé, ça fait déjà un petit moment, et que l'Empire Médée a repris la tête, donc dirigé par Titus Médée II, que beaucoup considèrent comme beaucoup trop laxiste, et qui a perdu la guerre contre les Talmor. Donc là vous voyez Titus Médée II, et les Talmor qui ont vaincu l'Empire, donc l'Empire a été extrêmement fragilisé, notamment sur ces territoires, on va dire, occidentaux. Ils ont beaucoup perdu. Je crois qu'il y a une carte, l'eau, si tu arrives à me la mettre, hein, que je vois un petit peu...
Alors là, c'est la Finlande.
Alors là, on comprend mieux...
Donc là, une carte.
Oui, positionné Skyrim, bord de ciel.
Ouais. Donc, alors, là, il faut savoir que c'est des zones... les zones sont délimitées... par faction plus que par région. Il faut savoir que Skyrim, c'est toute la partie bleue plus une partie de la partie rouge qui est à l'ouest.
D'accord.
Donc Skyrim est beaucoup plus grand que ça de base, mais là effectivement, on se rend compte que Cyrodiil, donc l'empire de Cyrodiil, n'avait pas la main mise, n'a plus la main mise sur tout bord de ciel. Donc la partie rouge, effectivement, c'est l'empire de Cyrodiil. La partie qu'on voit en jaune, c'est la partie Talmor, donc les hauts elfes, qui eux sont pour le coup clairement les antagonistes, hein, voilà. Et la partie bleu pâle qu'on voit, c'est la partie Sombrage, d'où mon pseudo évidemment.
Ah, notre cher fils Sombrage.
Après, donc, les autres factions qui sont, on va dire, indépendantes. Il faut savoir que la partie de Hammerfell, donc l'enclume, a continué le combat contre le Talmor après la reddition de l'Empire. Et au bout de 5 ans de combat acharné, le Talmor s'est dit « Bon, on n'arrivera pas à les prendre, on va oublier. » Et ils ont décidé que Hammerfell ne ferait plus partie. Donc, ils arrêtent le combat. Par contre, Hammerfell, vous ne faites plus partie de l'Empire. On décide quand même pour vous, quoi. Donc, il faut savoir que le Talmor a fait preuve de sournoiserie. Ils ont fait des demandes extrêmement importantes à l'Empire, notamment interdire le culte de Talos qui est quand même le dieu des hommes, ainsi que le démantèlement de l'Ordre des Lames, qui étaient les protecteurs de l'Empire et de l'Empereur, accessoirement. Ce à quoi, évidemment, Titus Médée a répondu non. Hein. Et là, les Talmor ont dit « Bon, bah, on a un cadeau pour vous, du coup ». Et ils ont enlevé une immense bâche qui était sur des charrettes, et des centaines de têtes sont tombées du chariot. C'était les têtes des lames, des officiers des lames, qui étaient en poste dans les territoires des hauts elfes. Donc là, c'était clairement la guerre qui était déclenchée, quoi. Et en fait, ils ont essayé de combattre ces Talmor sans vraiment y arriver. Et un jour, ils ont décidé de mettre fin à cette guerre en appliquant exactement les mêmes termes que les Talmor avaient demandé. Donc, l'interdiction du culte de Talos, ce qui a créé une révolte très, très importante, notamment en bord de ciel, où Talos était considéré comme plus qu'un dieu, quoi. Talos, faut savoir que c'est compliqué de pas rentrer dans le détail vraiment. Talos, c'était Tiber Septime, donc le fondateur du Troisième Empire, qui à l'origine venait d'Atmora, le continent originaire des Nordiques. Donc pour tous ceux qui sont de bord de ciel, Talos, c'est un héros. Donc leur dire « Non, non, maintenant, vous priez plus Talos, c'est interdit », c'était sûr que ça allait partir en cacahuète. Donc, révolte. Et ce serait con de se battre contre le bon ennemi, donc du coup, on va plutôt se battre contre les impériaux.
C'est un beau foutoir.
Bah, le problème, en fait, c'est que ça aide complètement le Talmor. Parce que le Talmor, qu'est-ce qu'ils veulent ? Le Talmor, ils veulent affaiblir, en fait, l'Empire. Et une guerre civile entre les Nordiques et Cyrodiil, ça affaiblit l'Empire encore plus que ce qu'il était déjà. C'est tout bénef pour le Talmor.
Et justement, tu peux nous faire justement à partir de là, parce que moi j'avais déjà eu une émission avec toi, donc moi ça, c'est un peu frais dans ma tête, ça va. Mais du coup, au moment où, juste pour les gens qui peut-être n'ont pas encore acheté cette édition anniversary, allez-y, nous ne sommes pas de sponsors, c'est la situation, c'est-à-dire quand t'arrives, qui est sur place, qui était là à l'origine, qui est censé être le gentil, qui est censé être le méchant, juste... Parce que je sens que l'eau a fait les gros yeux en mode alors attends, c'est un peu comme quand t'es en cours d'histoire. Alors il y a eux, il y a eux, mais en fait il y a eux.
Toi, t'es de quel côté et est-ce que t'es d'aucun côté
En gros, on arrive dans quel bordel ? Il y a qui contre qui ? Qui est légitime, qui ne l'est pas ? En quelques phrases, en deux phrases.
Moi, on m'avait pas prévenu que Fitz, c'était le Stefan Bern de Skyrim.
C'est
trop dur à suivre.
C'est encore plus intéressant.
C'est trop dur à suivre.
Je suis désolé.
On va t'appeler Stéphane.
Je fais un petit instant promo, je me permets. Si tu veux que ça aille moins vite et que tu aies mieux comprendre, c'est plein de choses que j'explique déjà sur ma chaîne YouTube. Où je fais plein de vidéos sur le lore, donc n'hésite pas à aller faire un petit
Il y a la chaîne de Twitch de Fitz que je mets dans le chat, donc Fitz Sombrage, et en description, il y a sa chaîne YouTube, parce que les liens YouTube, c'est n'importe quoi, donc j'ai préféré mettre une belle chaîne Twitch. Nous, on sait ce que c'est sur Lio Show. Du coup, oui, en quelques mots, on arrive dans quel bordel ? Qui contre qui ? Qui était là à l'origine ? Qui a usurpé ? Qui sont les vrais méchants ? Juste... pour qu'un gros résumé en deux phrases, vas-y, c'est ton défi, Fitz, et l'eau nous dira s'il a compris.
Alors, je vais faire mieux qu'en deux phrases, je vais le faire en deux mots. Tout dépend.
Tout dépend.
Oh là là, allez, casse.
J'essaye. Quand tu arrives en bord de ciel, il y a deux factions. Il y a l'Empire, donc dirigé par l'Empereur qui est en Cyrodiil, et... les Sombrages, dirigés par Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme.
Donc c'est les Nordiques.
Bah, y a certains Nordiques qui sont pour l'Empire. Donc c'est vraiment les révolutionnaires anti-Empire.
Okay.
Plus que les Nordiques en général. Quand tu commences le jeu, t'es dans une charrette et tu vas te faire exécuter, tu sais pas trop pourquoi d'ailleurs, et tu es avec un Sombrage, un voleur et Ulfric Sombrage.
Durant une mauvaise
chef. Le chef de la... Voilà, c'est ça. C'est le début d'une blague un peu pourrie. Et en fait, le problème, c'est que... Qui est légitime ? C'est une excellente question, parce que pour l'Empire, la seule personne légitime, c'est la Jarlès de Solitude, donc la veuve du haut roi Thorig, qui est décédé il y a quelques mois par rapport au début du jeu. Et pour beaucoup, notamment pour tous les Sombrages, la seule personne légitime au poste de haut roi de bord de ciel, c'est Ulfric Sombrage, qui a vaincu le haut roi Thorig en combat singulier, selon les traditions nordiques.
Parce que depuis des années, l'Empire avait, tel un peu l'Empire romain peut-être, avait pris possession des lieux et s'était dit, c'est nous les chefs maintenant, un peu dans ce style.
Bord de ciel est le premier allié des impériaux.
Alliés dans quel sens ? Ils se sont fait maîtriser ou c'est quelle forme d'alliés ?
Non. Bord de ciel a toujours été une nation extrêmement fière de guerriers. C'est des Nordiques, hein, les mecs. C'est littéralement ce que vous vous imaginez quand on vous dit guerrier nordique. Voilà, c'est des bourrins. Donc non, ils ne se seraient pas laissés dominer comme ça. Non, non, ils sont alliés aux impériaux. Ils se sont alliés à l'origine pour lutter contre les Aileïdes, qui sont les ancêtres des elfes, concrètement. Donc non, non, ils sont fermement alliés dans l'histoire depuis très longtemps. C'est les premiers alliés des impériaux. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a eu cette dissension et le haut roi Tori, qui était mis en place par l'Empire, a été défié en duel par Ulfric. Et Ulfric l'a vaincu. Selon les traditions nordiques, il est censé prendre le pouvoir. Et il l'a vaincu grâce au pouvoir de la voix, parce qu'il faut savoir que Ulfric Sombrage est un parleur, ce qu'on appelle une langue, donc il peut utiliser les forces de cri de dragon comme le Fusroda, etc. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui s'entraîne. Et le truc, c'est que bah, il l'a tué grâce à ça. Sauf que les impériaux estiment que ce n'est pas légitime, en fait, et que la personne qui doit reprendre le poste de haut roi, c'est la femme de Torig, donc la Jarlesse Elisif. Et voilà, déjà ça c'est le premier gros débat, et le problème aussi c'est que les nordiques, donc les révolutionnaires sombrages, se battent pour qu'on réautorise le culte de Talos, qui est considéré comme le 9e divin du Panthéon.
Leur dieu à eux, ouais.
Mais le plus gros problème c'est que les Talmor ont interdit ce culte parce qu'ils avaient peur qu'un humain ait pu accéder à la divinité. Pour eux, c'était
et justement, les Talmor dans l'eau, parce qu'on a parlé d'Empire, on a parlé de Sombrage, mais les Talmor, justement...
Pour moi, c'est le gros problème du jeu, c'est qu'ils sont très peu présents. Tu les croises de temps en temps, il y a une mission dans une ambassade Talmor, mais ils sont pas là, quoi.
Mais comment ils ont pu interdire si dans le lore, si dans le... C'est-à-dire qu'ils ont quelle place politiquement parlant pour interdire quelque chose dans le territoire?
Alors, il faut savoir que le jeu Skyrim commence, comme c'est marqué en dessous, en 201 de l'ère 4e. Et la Grande Guerre a pris fin en 180... C'est en 180. En 180 et en 185 à Hammerfell. Et ça a pris fin, cette Grande Guerre a pris fin suite au traité de l'or blanc, donc qui a été signé dans la tour d'or blanc dans la cité impériale. Le traité, donc, qui avait les termes, notamment, d'interdire le culte de Talos. Voilà, victoire des Talmor, on le dit, hein, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc, Talmor, ils ont dit, on a gagné, on impose nos conditions. Et l'Empire n'avait pas le choix, l'Empire était exsangue, l'Empire était ruiné financièrement.
Oui, c'était le Talmor contre l'Empire, là, au bord de ciel et tout, ça fait partie de l'Empire. Bah, du coup, tout ce qui est sous le joug de l'Empire, tous les pays...
De suivre cette règle.
Voilà, et du coup, le Talmor a une petite place en Tsun-Tsun, en furtif, dans la géopolitique dans Skyrim, quoi.
C'est ça. Et le problème, en fait, c'est que le Talmor commence à prendre beaucoup, beaucoup d'influence. Et puis voilà, c'est un gros problème. Il faut savoir que dans le lore de Elder Scrolls, en général, les elfes ont toujours eu cette volonté de domination sur l'espèce humaine. Depuis le début, on en a parlé, les simples créateurs, Anu et Padomai, sont les ancêtres des hommes et des elfes. Il y aura toujours une scission entre ces deux.
C'est pas dégueulasse, c'est pas gentil, un blond gentil. Hein.
Non, c'est ça. Mais les hauts elfes sont
supérieurs.
Une race à part entière. Non, ils sont pas supérieurs, ils s'estiment supérieurs.
Oui, ils se pensent supérieurs, oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Ils se pensent supérieurs.
Parce que en fait, c'est ça le truc. En fait, les hauts elfes, on parle de hauts elfes, ça renvoie d'une part à leur taille et d'autre part à la haute estime qu'ils ont d'eux-mêmes.
Oh, c'est du racisme. C'est... Globalement. Hein.
Non, mais clairement.
Bon, Lo, est-ce que t'as compris?
Oui.
Je suis content.
Voilà.
Non, mais c'est bien de se dire qui est contre qui quand on arrive.
Non,
et après,
mais j'ai à peu près compris, mais c'est quand même très
secret d'histoire de Skyrim.
C'est quand même très compliqué. Ah,
j'ai fait une vidéo sur la Grande Guerre. C'est vraiment
N'hésitez pas.
Passionnant.
La chaîne YouTube Fitz Sombrage. Si vous avez plein de détails, et tu continueras d'en faire, puisque je pense que quand même c'est ta vie. Hein. Elder Scrolls et Skyrim.
Ouais, je fais une grosse pause avec les vidéos en ce moment, les lives aussi, ça fait longtemps que j'ai pas repris, mais il va falloir que je m'y remette gentiment.
Tu souffles avant de reprendre, mais il y a déjà du contenu à consommer.
Bon, et ça fait deux fois que tu nous teases avec Mass Effect, donc je pense que un de ces quatre, on ira.
Il y aura du Mass Effect par là. un jour.
Je maîtrise pas assez le sujet. Il va falloir. Le problème, c'est que si je fais une chronique sur Mass Effect, il faut que je la bosse parce que je connais pas aussi.
Et bien, la dernière de l'année, t'as un an. Allez. en juillet.
À Noël. À Noël.
Eh, c'est la surprise, les gens. Soyez là et vous verrez bien. De toute façon, on peut vous dire que ça. Hein. Est-ce que ça. Tu avais. Ce que je t'ai fait faire après, un petit récapitulatif. Je répète, on vous a dit des choses qui étaient en images. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, Deezer, etc., il y a le podcast aussi, si on peut appeler ça un podcast, qui est sur YouTube. Donc, pour certains passages, n'hésitez pas. À vous le mater en vidéo parce que YouTube c'est 100% vidéo et après les podcasts audio, donc je le reprécie à chaque fois. C'est pareil pour toutes les chroniques. Est-ce que tu avais fini ou tu voulais faire une conclusion sur ta chronique, mon cher Fitz?
Non, bah la conclusion elle est là en fait. On en est là en fait.
Vive les sombrages, c'est ça?
Ouais, bah suivant de quel côté vous êtes. Moi j'ai envie de dire, même si je suis sombrage, j'ai envie de dire vive l'Empire, mais le vrai Empire. Celui qui ne courbe pas les chines devant le Talmor. Quoi.
C'est aussi un problème, une problématique dans ce qu'on vous cherchait bien.
C'est pour ça que c'était important de parler de ça pour moi, parce que le problème vient de là. Le vrai ennemi, ce n'est pas l'Empire, c'est le Talmor.
Ça fait bien. Le vrai ennemi n'est pas celui auquel vous pensez.